Yo, 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 bienvenue dans votre émission. Vous connaissez déjà, c'est Dynasty Sounds. On parle des producteurs qui ont influencé la culture jusqu'à aujourd'hui et évidemment toujours avec le seul et unique Denzito, Denzel. How you doing, Maji? Comment tu vas?
What up, on est là et toi, mon ref?
Toujours présent dans les starting blocks, tu connais. Et là, on est bien, on est carré. Ça va, t'as pas de production à faire cette fois-ci juste avant l'émission? Ou c'est comment? Comment t'es à l'aise?
Non, non. J'ai bossé un petit peu justement. Je me suis déchargé là pour avoir l'esprit tranquille. Donc tu stènes, comme on dit à
Bon,
Grigny.
ça va, tant mieux. Parce que là, précédent épisode, le Boog, juste avant l'émission, qu'est-ce qu'il fait? Il me dit, attendez, j'ai une inspi là. Et du coup, le mec nous lâche pendant quelques minutes pour aller faire sa petite prod et après il revient. Donc voilà, c'est le genre de personne à qui on a affaire. C'est juste pour vous dire.
Mais on soigne, on soigne.
Non, vraiment, on apprécie. De toute façon, allez checker ce que fait le Denzel en termes de prod. C'est le feu de ouf. J'apprécie personnellement, donc c'est le feu de ouf. Parfois, il faut faire ta promo parce qu'on oublie parfois, gros, t'es un artiste, tu vaux ce qu'il faut, mon gars. On n'oublie pas.
On bosse, on bosse, on bosse.
Du coup, aujourd'hui, on va parler d'un mélomane comme toi, d'un gars qui maîtrise des instruments comme tu peux le faire. Et c'est bien évidemment de Scott Storch qu'on va parler, cette légende avec sa dégaine légendaire et ses lunettes Carrera Aviator qu'il n'a jamais quitté. Je ne sais même pas à quoi il ressemble presque sous ses lunettes en réalité. Tellement on le voit tout le temps avec, c'est une dinguerie. Du coup, ce sera de lui dont on va parler aujourd'hui. Et comme d'hab, petite présentation du Boog avec un petit texte et après on bascule sur la suite. Let's go. Si vous voulez parler de hitmaking, impossible de ne pas mentionner Scott Storch et ses mélodies légendaires dans tout style de musique populaire. Si vous sortez en soirée, impossible d'y aller sans écouter un de ses classiques. Si vous êtes des amoureux de R&B, impossible de ne pas avoir lâché une larme sur une de ses compos. Vous l'avez compris, on a parlé d'un artiste omniprésent et omniscient, tant il avait la main sur tous les styles de musique à l'époque. De Justin Timberlake à Lil Wayne, en passant par Dr. Dre, Beyoncé, il transformait toutes ses collaborations en or. Ce qui en a fait des classiques incontournables. Du coup, comme d'hab, tu connais, qu'est-ce que tu penses de cette présentation et qu'est-ce que tu pourrais y ajouter toi-même?
Moi, je suis cordard hein, en ce qui concerne la variété de ce qu'il a produit. Et en parlant de variété, on va pouvoir s'intéresser à ses débuts de carrière, puisqu'ils ne sont pas généralement mentionnés quand on mentionne sa carrière de producteur. Bon, on ne peut pas dire qu'il était véritablement producteur dans la structure dans laquelle il était, puisque on a tendance à l'oublier, mais il était Scotty, dans The
Ok, explique c'est quoi
Roots.
Scotty?
Scotty, ben, c'est Scotty, quoi. Scott Storch. Et ouais. Et en gros, c'était claviériste de The Roots et qui a eu un rôle important. Il y a des morceaux qui reposent pas mal sur le piano, sur les roses et tout. Et le premier morceau auquel je pense, moi, qui m'a choqué quand j'ai découvert la discographie de The Roots vraiment des débuts, où on sent vraiment l'empreinte de Scott Storch, pas telle qu'on la connaît ensuite, qui a fait son succès mainstream, mais il y a quand même l'empreinte de Scott Storch de l'époque, c'est Proceed de
Bien
The Roots.
sûr, fou. Quel morceau
I
ça, un de mes morceaux
shall
préférés.
proceed.
Proceed.
Non, c'est trop ce truc-là.
Là, ouais, de ouf. Franchement, c'est jusqu'à maintenant, c'est un de mes morceaux préférés de The Roots. Tu pouvais pas mieux commencer en réalité pour introduire le Boog et introduire le groupe en réalité. Enfin, ce qu'ils ont été capables de faire par la suite, qu'à terme. Mais désolé, je t'ai coupé.
Mais ouais, c'est assez surprenant en fait quand on connaît pas sa discographie avant ses grosses productions du début milieu des années 2000. Mais il était effectivement un pianiste important parce que il était celui de The Roots et il a fait vraiment de belles choses. Hein. Il y a aussi un morceau live. Purée, j'ai oublié le titre. Ah, je suis un ouf. Ça va me revenir. Mais il y a un morceau live aussi où on entend tout simplement The Roots jouer et un petit passage où justement on lui demande de faire son petit
C'est
truc.
pas avec un nom spécial là et
Oui,
enfin,
voilà.
voilà. Mais c'est parce qu'en fait ce nom il est trop dur. Non, c'est pas, non, ça n'a rien à
Non, c'est pas
voir.
Do You Want More, c'est pas le
Non, c'est
titre
pas
de
Do You Want
l'album.
More, je sais. Mais c'est vraiment un nom particulier. C'est assez dur à prononcer, j'ai oublié. Attends. Mais en tout cas, je vois très bien de quel morceau tu parles. Oui.
Ouais, et on l'entend faire son truc, on l'entend
C'est
pianoter et tout, et...
Essay Woman. Voilà,
Ouais.
avec point d'exclamation,
Exact.
d'interrogation. Voilà, c'est
T'es
celui-là. Oui.
bon, c'est
You
exactement ça, c'est exactement ça.
already know, you already know.
Ouais, je trouve qu'il fait un travail formidable. Et s'il fallait parler un petit peu d'esthétique sonore, ce qui est intéressant, c'est que on entend à ce moment-là qu'il va vraiment piocher dans l'esthétique soul R&B de l'époque, tu vois. Voire même, il y a des espèces de prémices de la néo-soul dans ce qu'il fait, compte tenu des influences qu'il va aller chercher dans son son un peu plus moderne au milieu des années 2000. C'est assez surprenant, en fait. fait de constater ça. Parce que moi, personnellement, ce qui a fait que, bon, j'ai toujours aimé Scott Storch, hein, mais dans une certaine mesure, ce qui m'a toujours un peu frustré, c'est qu'il y avait dans sa musique, en tout cas dans ce qu'il produit au milieu des années 2000, plutôt un héritage du classique. On aura l'occasion d'en parler plus tard. Mais là, c'est vraiment soulful, tu vois, et c'est pas une imitation de musique de piano, de nappe et tout soulful. Non, c'est vraiment, vraiment soulful. Et même si on veut aller un petit peu plus loin, pour l'occasion, moi, j'ai découvert des trucs, notamment en ce qui concerne Jazzy Fat Nasties. Je confonds toujours entre Jazzy Fantasy et Jazzy Fat Nasties. C'est soulful à mort, tu vois. C'est des trucs un petit peu à la groove theory. C'est des trucs vraiment deep soul. Il y a des trucs, on dirait... Bon, après, c'est gentil, hein, mais c'est pas aussi groovy sale que Michel Djeochello. Mais il y a des trucs vraiment, vraiment, vraiment groovy. Et ça me stupéfait au dernier degré, tu vois. Donc, ouais, vraiment, il a... À ses débuts, avec The Roots, et dans le sillon, dans l'environnement de The Roots, il a vraiment ce truc-là, soulful.
Ouais, mais je pense qu'on fait pas souvent le lien, tu sais, entre les deux. Parce que entre le Scott Storch qu'on a tous connu à une certaine manière, parce qu'en vérité, on l'a tous connu à travers un hit ou un autre, tu vois ce que je veux dire, Scott Storch. Quand tu compares avec ce que nous, on a connu à la télé, à l'époque encore MTV Base, et les débuts, c'est tellement différent, en fait. En fait, tu passes vraiment de quelqu'un qui était dans quelque chose de très niché et d'émergent avec The Roots, où on a ce côté très soulful, très organique, très rap vraiment conscient.
Ouais, Energy Native Tongues et tout.
Exactement, exactement, tu vois. Et quand tu penses à ça, c'est, en fait, c'est une connexion que tu as du mal à faire, surtout qu'il a été extravagant dans ses productions, et il a été extravagant, en tant que personne aussi, quand tu connaissais un peu son histoire, tu vois. Même si, pour définir sa tête, en réalité, c'est vraiment des artistes, les personnes qui s'intéressent à la musique, tu vois. Moi, je me rappelle toujours la première fois que j'ai vu la tête de Scott Storch, c'était dans Make It Rain, tu vois. Enfin, voilà, tu vois, déjà, moi, c'est la première fois où je me rends compte que Scott Storch, il existe vraiment, tu vois. Et du coup, quand tu vois sa tête dans le truc, tu captes pas tout de suite qui il est, tu vois. Mais du coup, tu mets ça de côté avec son côté beaucoup plus low-key à l'époque. Bah, forcément, en fait, t'arrives pas à faire le lien entre les deux. Et quelquefois, tu peux totalement occulter le fait que, bah, en réalité, il a fait partie du tout début de The Roots. Donc, ça remonte à quoi, 91. Et lui, il était déjà là, tu vois, en tant qu'accompagnateur, faisait du panneau et tout, tu vois. Et je pense aussi qu'avant, comparé à justement après où se montrer dans les clips et tout, c'était quelqu'un qui préférait rester justement discret d'une certaine manière, tu vois. Il voulait devenir quelqu'un, il devait devenir lui-même, mais déjà, quand il était chez The Roots, il y avait un truc qui a fait que finalement, il s'est dit « Ah, je ne me vois pas forcément rester dans le groupe ». Déjà, bon, d'un côté, il y a le côté, il a envie de devenir son propre gars, tu vois. Après, plus tard, il a lancé son label et tout, tu vois. Il a voulu devenir Scott Storch en tant que personne. Ouais. Mais c'était aussi le fait d'être en tournée, tu vois, de toujours avoir à tourner avec les gars et tout, et en réalité, de se montrer. Lui, c'était un mec qui kiffait le process de rester en studio, de faire des prods au studio et tout, plutôt que de se montrer, de bouger à gauche, à droite. D'ailleurs, beaucoup plus tard, quand il a eu un succès de fou malade, vraiment, tu vois, on parle du Scott Storch que tout le monde connaît, il était à un stade où, en fait, les gens venaient le voir. Ça veut dire que les gens prenaient l'avion pour aller le voir lui. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il était arrivé à ce stade-là où il n'avait pas besoin de faire de passe à gauche, à droite. Maintenant, les gens viennent à moi pour faire ce qu'il y a à faire. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, comme j'ai dit, ça a changé. De toute façon, sa situation a changé. Et puis même, on est sur les réseaux sociaux. Et puis même, il faut qu'il se montre parce qu'il fait partie des visages qu'on connaît maintenant. Tu vois. Je pense que voilà. C'est des choses qui expliquent un peu que par rapport à ça, tu vois, la différence qu'il y a entre les deux. Tu vois. Et musicalement, comme tu as dit, il y avait vraiment ce côté soulful. De toute façon, tu as parlé du coup de Proceed et tout qu'on kiffe de fou. Vraiment, là, on est là. C'est vraiment le bail. Tu bouges tes balles, tes bras en balançant tes bras. Tu vois,
exactement le move.
Vachement smooth. C'était le move de The Roots à l'ancienne aussi, le move de Black Talk, tu vois, quand il était encore jeune. He was young and hungry, tu vois. Il avait il avait la dalle, tu vois.
Je vois très bien Lauryn Hill faire ce move avec les Fugees. La gestion de Lauryn Hill dans les Fugees, exactement. Je te sens à mort.
C'est celui-là, c'est ce move-là, that one. Du coup, t'as ça. Et puis t'avances, fast forward, tu te retrouves avec quelque chose de très soulful. Et là, pour le coup, on est vraiment dans la néo-soul. Parce qu'au final, de toute façon, ça a toujours été la même famille. Lui, c'est autant un gars de la néo-soul que les Erykah Badu et tout qui sont arrivés, vu qu'ils traînaient avec The Roots. Et du coup, après, t'as You Got Me.
Oui, j'allais bien sûr le mentionner. Impossible de ne pas le mentionner.
Exactement. C'est important. qui est son premier gros morceau, son premier gros tube, tu vois, You Got Me. Et là, on est clairement dans la néo-soul avec une Erykah Badu en forme, tout ça, là. Du Jill Scott aussi dans le milieu. Enfin, en fait, tu peux pas faire plus néo-soul que ça, tu vois.
Alors, j'ai quand même envie de nuancer. Parce que dans ma lecture du morceau, tu sais, la cadence, la manière dont c'est composé, imagine un arrangement orchestral, symphonique.
Oui.
Tu vois ? Et en vrai, ça ressemble plus sur certains aspects à de la musique classique. Après, bien sûr, c'est le groove de Questlove. C'est la ligne de basse aussi qui est incroyable, tu vois. Le flow de Black Thought, l'interprétation d'Erykah Badu. Bref, tout ça, en fait, ça fait que le morceau sonne véritablement néo-soul, tu vois. Y a pas de souci. Mais si t'imagines une orchestration vraiment symphonique et tout, eh bien... c'est assez proche du classique au final, et surtout quand tu écoutes les versions que lui a jouées, tu vois, quand il les joue au piano, tu as l'impression d'écouter un bout de concerto, tu vois, avec lui en soliste. Déjà, moi je sens à ce moment-là, et c'est pour ça qu'en fait j'ai eu du mal à comprendre et à capter qu'en fait il avait ce truc vraiment soulful au départ. Parce que moi, le premier morceau que j'ai entendu quand j'ai entendu qu'il était avec The Roots, c'était You Got Me. Je me suis dit, ah oui, ok, d'accord, héritage du classique et tout machin, tu vois. Moi je trouve qu'il y a encore un petit peu ça.
Donc en fait, à partir de ce moment-là, toi, tu l'as totalement référencé dans tout ce qui était classique en réalité. Tu vois, t'as pas eu du tout cette oreille où tu t'es dit, ah, il y a quelque chose de soul dedans. Tout de suite, t'as pu définir, ok, il y a vraiment cette influence beaucoup plus classique que la reste.
Ouais, exactement, exactement. Pour moi, même dans son toucher, dans sa manière de phraser, tu vois, les statements au piano qu'il a, même au synthé, parce qu'en réalité, il joue au synthé comme il joue au piano, tu vois. Il y avait plus un héritage du classique que le côté soulful qu'il développe et exploite, que ça soit avec les Jazzy Fat Nasties ou avec The Roots.
J'avoue, c'est vraiment intéressant parce que tu vois, c'est là où on voit, on va dire, la différence entre une oreille un peu banale comme la mienne, tu vois, et toi qui arrives à percevoir ces choses. Parce qu'en vrai, c'est vrai que quand tu te concentres réellement sur le piano, parce que finalement, elle est là sa spécialité, tu vois, c'est le côté pianiste de la chose. C'est vrai que tu ressens ce côté très technique au niveau de la technique du piano et tout, la manière dont c'est joué, ce genre de choses, tu vois. Mais je pense qu'au final, ce qui, pour moi, apporte vraiment une touche néo-soul, finalement, c'est le reste, tu vois. Fin de compte, quand tu penses à la néo-soul, c'est la touche hip-hop qui est apportée dedans, qui fait passer de la soul à la néo-soul, tu vois. De la soul à quelque chose, à un niveau qui va au-dessus de quelque chose de plus contemporain. Et c'est comme ça que, du coup, j'ai perçu la chose et que je perçois cette musique en général, tu vois. C'est pour ça que moi, j'ai été tout tenté de te placer dans, justement, ce côté très néo-soul là, parce que déjà les personnes qui représentent la musique qui sont là sont toutes des personnes de la néo-soul qui ont représenté quelque chose dans la néo-soul, tu vois. Et en réalité, je pense que c'est toute cette énergie qu'ils ont apportée avec eux qui était présente, tu vois. Donc je pense que c'est aussi une manière de penser que la néo-soul se disperse de plusieurs manières. Est-ce qu'on peut pas parler presque de néo-classique, tu vois, parce que de toute façon, la néo-soul, tu peux y apporter énormément de choses hyper instrumentales. De toute façon, on n'a qu'à penser à tous les classiques néo-soul qu'on a, comme les albums de D'Angelo, tu vois, qui sont très orchestral, du premier au dernier, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus une infusion de jazz dans ce que eux ils proposent que dans ce que Storch ils proposent en réalité. Parce que c'est vrai que Scott Storch, quand il réfléchit, le jazz, il touche à beaucoup de styles de musique, mais est-ce qu'il a vraiment une touche de jazz dans ses musicalités maintenant que j'y pense? J'ai pas de réel exemple. Je sais pas pour toi.
Ouais, hein. Mis à part ce qu'il fait avec les Jazzy, Fat Nasty et The Roots.
Ouais, c'est ça.
Franchement, dans le reste, c'est beaucoup plus pour moi l'héritage du classique avec... En fait, là, on va déjà basculer vers les années 2000 ou bien...
Mais let's go.
Ok. Parce que là, ça devient sérieux. Là. Ça devient très sérieux. Parce que là, on commence à entrer dans les trucs sérieux là, de Scott Storch.
Oui.
Qu'il s'agisse de... Il a quand même fait Let Me Blow Your Mind. Non, c'est pas...
C'est comme d'hab, c'est dingue comment tu te rends compte des choses. En fait, c'est quand même beau la période qu'on a vécue. Hein. Franchement, je me dis, vivre ça et voir ça à la télé passer comme ça, là, dans les MTV Base et tout. Enfin, il a fait Let Me Blow Your Mind, il a fait Let Me Love You.
Let Me Love You? Attends, c'est JD, non? Let Me Love You, il me semble. Tu veux dire... Je suis un ouf, moi je confonds avec Let Me Hold You.
Ben voilà, mais c'est ça que je me dis. Non, ben voilà, ben voilà. Hey, tu m'apprécies, mais bien sûr qu'il a fait Let Me Love You. Bien sûr qu'il a fait Let Me Love You, tu vois. C'est pour te dire, le boog est partout. Il faut que des gens comprennent, le boog était partout en réalité, tu vois.
Non.
C'était un truc de ouf. Et justement, dans toutes ces mélodies R&B, le mec il était là. Quand tu penses à ça, et tu vois, Let Me Love You, c'est vraiment. C'est pour ça que je disais, dès que t'es. T'es dans les clubs, t'as forcément entendu une de ses chansons, tu vois. C'est sûr et certain. Le mec, il est passé de Let Me Love You à Lean Back jusqu'à maintenant. Le son, tu l'entends grave en soirée. Le mec, il a fait Make It Rain quand même. Make It Rain, ça m'a vraiment rendu fou à l'époque. En plus, à l'époque, c'était des mixtapes de fou malade. Là où ça balançait fort, fort, fort. Même si, du coup, ça, c'est plutôt dans un album. Mais même, tu vois, c'est le Lil Wayne mixtape à l'époque, tu vois ce que je veux dire. Là, en plus, on est en octobre. Je me rappelle, j'étais en train de me faire une petite sélection d'octobre. Et tu connais, et c'est l'automne et t'as Make It Rain. Il faut, tu vois, cette pluie qui tombe sur toi. Bref, tu penses à toutes ces choses-là, musicalement, à ce qu'il a apporté. En fait, c'est ouf la manière dont il a tenu les années 2000 par le coup, en fait.
Ah oui, oui, oui. Le début des années 2000, c'était lui. C'est absolument terrible ce qu'il a fait à cette période-là. Il peut-être en mentionner aussi, du coup, son partenariat avec Dre, ce qu'il a fait pour la West Coast aussi. Pour toute l'époque qui se situe autour de Chronic 2001, tu vois.
Bah oui, bien sûr, obligé de penser à... Vas-y, continue.
Bon, c'est un secret pour personne, le fait qu'il a bossé sur Still Dre Day.
Logique, tu vois.
Déjà, rien que ça, tu vois, ça le place, ça le situe sur la map. Still Dre, c'est quand même incroyable, gros.
Ouais, j'ai une confidence à faire sur cette chanson. De base, quand je l'ai écoutée, je fais partie des rares personnes qui n'ont pas aimé.
Quoi ?
Je te jure,
sur mais non, comment tu comment ?
Non, mais écoute, j'ai grandi à Grew Up, j'ai grandi, mais je tiens à le dire au début. Mais je pense qu'en réalité, pour toutes les personnes, si vous avez un peu suivi les émissions, vous comprendrez que moi, j'ai toujours été un mec de la East de ouf. Mais vraiment, moi, je suis un mec de la East de malade, tu vois. Ce qui fait que tout ce qui venait un peu de la West, je sais pas pourquoi, mais j'avais un peu une réticence à ça. C'est quelque chose qui me touchait pas particulièrement. Ce qui fait que quand Still Dre est arrivé, la production, je pense qu'elle a dégagé une telle personnalité que en fait, ça m'a pas eu tout de suite. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, c'est comme dans California, je sais pas si j'ai bien aimé ou si j'ai pas aimé à l'époque. Mais tu vois, ça me ramenait à ça. Ça me ramenait à vraiment cette personnalité forte de la West dans tout, l'identité, la musicalité. L'identité, encore, ça ne m'a pas dérangé. En soi, c'était stylé, tu vois. Je pense que là où j'ai réussi à me prendre un peu le truc et à vraiment un peu comprendre le délire, c'était avec le Up in Smoke Tour.
Oui.
T'as vu le DVD ou pas ? Ou la cassette ou whatever ? T'as vu ou pas ?
Bien sûr. Heureusement que mes potes avaient des grands frères et que, vas-y, on pouvait sneak, tu vois. Vous pouvez passer par derrière comme ça, là, mettre la cassette, gros, ou le DVD, comme ça, là, en scred. Parce que je ne peux pas regarder ça chez moi, t'es fou, quoi. Il y a des images qui sont gravées dans ma rétine de ce truc-là, des trucs atroces. Mais l'Open Spock Tour, c'était un cultural reset, vraiment. Et il a contribué au mouvement, en fait, à ce qui s'est passé à ce moment-là, tu vois, avec Still Dre. Et même après, il a fait comme... ce qui est fort dans les productions de Scott Storch et ce qui fait pour moi aussi que t'es un producteur, un compositeur qui fait des bangers, c'est vraiment le truc d'avoir des statements, tu vois. Faut que ton morceau il ait des statements au début, tu vois. T'as un statement qui fait que le morceau il a sa propre identité. Max Martin il est fort pour ça, tu vois. Par exemple, pour sortir un peu du hip hop et tout, sur Baby One More Time.
Baby One More Time, ouais.
Tu connais l'intro ?
Ouais, bien sûr.
Ta-da-da. Bah bien, yes, tu vois. Scott Storch il a que des statements comme ça. Si je te fais ta na 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 na. Il est fort pour les statements comme ça, tu vois.
C'est vrai qu'il savait comment introduire ses morceaux et les emmener vers quelque part.
Ouais, laisse tomber. Après, il y a une rumeur qui affirme que c'est un autre frérot. J'ai vu un autre frérot qui disait que c'était lui qui avait joué Cry Me a River. Mais bon, bref. Si on se fie plutôt à la rumeur officielle, enfin la rumeur qui a la plus grosse réputation, qui est le plus entendue, qui affirme que c'est Scott Storch qui a fait, tu vois, ne serait-ce que l'intro de Cry Me a River, tu vois, c'est un statement.
Totalement. C'est... Mais de toute façon,
il a que des statements. Vrai, ouais. Même ses prods, la prod de X, c'est un statement, tu vois. C'est un statement. Il a que des statements comme ça. Et c'est pour ça que c'est trop, trop fort. Tu vois.
Ouais, mais je suis carrément d'accord. Mais en réalité, justement, tous ces statements, comme tu l'as dit, parce qu'il y a Cry Me a River, du coup, qui l'a produit, donc encore une fois, classique de chez classique. Et Still Dre, en réalité, les compositions piano, c'est lui qui les a faites à chaque fois, tu vois.
Ouais.
Et de toute façon, enfin, genre, par exemple, pour Dr. Dre, les gens connaissent tous l'histoire et tout, mais on le rappelle, en gros, tout est parti à la base de la mélodie piano de Scott Storch, et à partir de là, tout a été formé, parce que justement, à l'ancienne, et en fait, ça revient à ce qu'on disait avec Notes, Dr. Dre, dès qu'il travaillait avec les gens ils étaient un peu à l'arrière. faire. Tu vois ce que je veux dire, des personnes avec qui il travaillait. Lui, c'était de
ouais,
grands noms.
Gosse... Ouais, que... voilà, les ghost producers.
Exact, exactement. Donc, c'est comme ça qu'on a vu avec DJ High Tech, c'était un ghost producer. On a vu avec Notes, c'était un ghost producer. Et en vrai, il y avait Scott Storch aussi qui était un ghost pianiste. Et donc, Scott Storch, lui, il a travaillé beaucoup aussi sur l'album 2001 en lui-même. Et d'ailleurs, parce que du coup, on parlait du Open Smoke Tour et tout, d'ailleurs, l'intérieur de la pochette du Open Smoke Tour, c'est n'importe quoi. Moi, c'est, moi, la... moi, c'est mon daron qui me l'avait acheté pour te dire. Parce que toi, je te cachais, moi, c'est mon daron qui me l'avait acheté, mais il n'avait pas ouvert.
C'est une dinguerie.
Il n'avait jamais ouvert. Donc voilà, mais tout ça pour te dire que du coup, il y avait tout ça qui avait créé quelque chose de plus en moi. J'ai fini par comprendre le Dell. Et surtout, il y a eu Explosive dans l'album 2001.
Oh là là.
Sur lequel il a travaillé. Et ça, ça m'a parlé. Ça, ça m'a parlé de fou malade. Tu vois. Là, vraiment, j'étais dans quelque chose. Je me disais, OK, I get it. OK, je comprends. Et ça, ça m'a eu, tu vois. Et j'ai pu attraper le reste, tu vois. Et d'une certaine manière, capter le génie, justement, de Scott Storch, qui, au final, avec ses mélodies piano et tout, les manières qu'il a de travailler ses mélodies, il apporte, justement, un statement, quelque chose de fort dans les productions sur lesquelles il travaille musicalement, tu vois, qui font que, jusqu'à aujourd'hui, c'est des choses que tu retiens, en réalité, tu vois. Et ouais, vraiment, j'aime beaucoup ce que tu as dit là-dessus parce que bah, c'est au final, par exemple, Beyoncé, un de mes morceaux préférés.
Me, Myself and I.
Exactement! Exactement! C'est ma chanson préférée d'elle, tout court en fait. C'est la meilleure chanson qu'elle a faite de sa carrière.
On est ensemble. Gros. On est en bleu.
Gros.
On est en bleu de toutes les nuances de bleu, gros.
You already know. Tu sais déjà, gros. Hey, oui, et tu vois. Grave. Mais gros. Et tu arrives tout de suite. Statements déjà, t'as la petite phrase de Beyoncé comme ça là, et après t'arrives.
Non, ça c'est les sentiments avec 4 S, gros. Non, vraiment. Tu vois, le truc c'est que soit il a des statements, soit il a des mélodies archi fortes, tu vois. J'ai parlé de statements sur X, mais sur Let Me Blow Your Mind, par exemple, tu vois, la mélo, elle est méga forte. La mélo sur How We Do, elle est archi forte.
De fou malade. C'est vrai, en plus, en fin de compte, tu penses même à Candy Shop.
Ouais.
Même Lil B, tu vois, où il était dans sa période un peu orientale. En réalité, tous les producteurs ont eu une période un peu orientale, comme ça, tu vois.
Ouais,
et lui,
il a
fait partie des maîtres de ce craft, tu vois. Et t'entends ça avec Lil B. Quand tu le vois, ils ont pu jouer le truc au piano, il est là, bouge de gauche à droite comme ça pendant qu'il est en train de jouer son piano, en train de taper les petites mélodies dessus là. Ah putain.
Ça c'était active. Non. C'est trop. Je pense qu'on a parlé de beaucoup de producteurs qui ont tabassé les années 2000, mais en termes de power mainstream. Ah, je sais pas, ça me fait mal de le dire. Hein. Non, je pense qu'en termes de pouvoir commercial à proprement parler. Je
sais pas si vous l'avez dit.
Non, parce que là, je suis en train d'hésiter carrément à le mettre devant les Neptunes. Ça.
Ah putain, non. Ah ouais, là, j'avoue, c'est. Franchement, je sais. Non, parce que je pense
Neptunes,
pas.
C'est I'm a slave for you et tout, tu vois.
Ouais, c'est vrai que je suis en train d'y réfléchir là, parce que c'est vrai qu'il y a quand même Battle. Je pense que les Neptunes, ils ont mieux réussi à tenir sur le temps. Mais quand
oui, bien sûr.
Regardez. Tu vois, quand je vais essayer de regarder...
Mais sur leur run, de Scotty, genre 2003-2005, c'est quasi... Et c'est quasiment imprenable. C'est infernal. Gros, c'est infernal.
De ouf, parce qu'en plus... justement, parce que lui, en plus d'avoir cette casquette-là de producteur, il a la casquette parolier, il a été nommé 2006 Songwriter aussi of the Year, genre. Genre, il a reçu un prix en tant que songwriter. Par rapport à tout ça, tu vois, et pour montrer à quel point le mec était présent et il prenait tout. Et parce que, en fait, quand tu mets à côté avec les Neptunes, ils ont eu justement, comme tu as dit, Slave for You, en fait, c'est qu'ils ont eu une assise sur le rap, ils ont eu une assise sur le R&B, ils ont eu une assise sur la pop aussi.
Ouais, sur une partie de la pop, ouais.
Et, ouais, exactement, genre, Christina Aguilera, Scott Storch, c'était son bouc de ouf, tu vois. Scott Storch, c'était son bouc de ouf, tu vois. Et Beyoncé, n'en parlons pas. Justement, Beyoncé, en réalité, ses plus gros tubes, c'est Scott Storch qui lui a donné au début. Naughty Girl, c'est lui. On a parlé de Mercy Final, c'est pas un tube, mais ça, tu connais, ça parle au cœur. Baby Boy, c'est lui. Et il a été capable de proposer des choses qui ont façonné les artistes, en réalité, quand il réfléchit bien, tu vois.
Et j'ai négligé, mais il a quand même fait Family Portrait de Pink. Je savais pas du tout. L'information, en fait, elle était pas. Je l'ai pas enregistrée. C'est là maintenant que je réalise en vrai. C'est chaud. C'est très très chaud. Je sais pas. Franchement, je saurais pas avoir un avis définitif sur la question parce que vraiment, non, Poppin' Them Things, tu vois, c'est trop. Même après, un petit peu plus tard, quand il arrive avec Put Your Lighters Up de.
Lil Kim, quels sont magnifiques quand ce son était sorti là. Aïe aïe aïe, put your light on top. T'avais l'impression d'être de New York toi aussi.
Vraiment.
Ouais, t'appelles comme ça. Moi aussi, c'est quand tu cites ma ville. Moi je venais de Sergi, gros. C'est quand tu cites Sergi. Sergi, put your light on top.
Et il a fait des trucs incroyables. Par exemple, ça aussi, j'avais pas enregistré. J'avais pas qu'il avait fait Chillin' with my bitch. Parce qu'il y a Jazzyfa, pour moi c'était Jazzyfa, tu vois. Mm-hmm. Et il fait Chillin' with my bitch.
Il a fait You Make Me Wanna de Jadakiss.
Oui, K-I-S-S. Non, c'est les sentiments. Non, franchement, le truc, c'est que vas-y, il nous a tabassé de partout. R&B sentiment, il était là. Let Me Love You, c'est fondamental, ouais, tu vois. Parce que tu sais qu'en fait, j'ai bloqué parce que, début de l'enregistrement, j'ai bloqué quand tu parlais de Let Me Love You, je comprenais pas pourquoi tu...
Tu t'insistais. Ouais, parce que moi, je comprenais pas pourquoi tu comprenais pas. Je me suis dit, what the fuck?
Non, mais tu sais qu'en fait...
Est-ce que j'ai fait une erreur ou...
Tu sais qu'en fait, mon beau cerf, il a bloqué sur le Let Me Love You de Neyo. C'est pour ça, mais après, quand j'ai...
Non, c'est pas moi qui aurais mentionné Neyo. Hein.
Bah ouais, je me doute bien. Mais par contre, les crédits du coup de Mario, du coup, Let Me Love You, ce Let Me Love You-là, oui, là, c'est fondamental, tu vois. Mmh. Et même pour faire un petit saut un petit peu en arrière par rapport à ce dont on parlait, moi je trouve qu'il fait une petite rétrospective soulful avec Me, Myself and I. C'est pour ça que je kiffe, tu vois. Oui. Mmh. Au niveau des couleurs d'accord et tout, non, c'est soulful, tu vois. En vrai, il a quand même des trucs. Même, vas-y, ça c'est un truc un peu pour moi, un truc un peu perso, mais j'ai tellement poncé Real Talk que quand j'écoute Round and Round, ça me fait un truc, tu vois. Mmh. Mmh. Ça n'a jamais été un single, mais ça me fait un truc. Et il a quand même fait aussi Color to You, tu vois. Ça compte pas pour du beurre. Non, vraiment, vraiment, vraiment. Scotty, c'est... Sur cette période-là, il est difficilement prenable. Des Candy Shop, des Just a Little Bit, des Get It Poppin'. Players Only aussi, Olaf. J'ai trop vite oublié tout ça. C'est vraiment une dinguerie que j'ai oublié tout ce qu'il a fait. Parce qu'il a vraiment fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dingueries. Run It, Give Me That,
J'aime pas Run It, par contre. J'aime pas Run It. J'aime pas cette chanson. I never liked this song. Oui, je vais faire le hater aujourd'hui. Mais c'est pas de sa faute, c'est pas la prod le problème. Parce que j'aimais bien le passage de Joel Santana. Parce que vous avez compris que moi, j'étais un deep set aficionado, tu vois. Mais quand le passage de Chris Brown passait, là, j'avais juste une envie, c'était de zapper, purée. Non, je suis un peu un hater, quelquefois, je dois le reconnaître, voilà. Mais tout ça pour dire que même Randy, je suis obligé de reconnaître que ça a donné une carrière à Chris Brown. Il pouvait pas mieux espérer commencer sa carrière, tu vois ce que je veux dire, ce côté où t'es entre R&B, mais quelque chose de très bouncy, genre le ting. C'est pareil, Statesman, ting. En fait, tout de suite, t'as la prod, en fait. Tout de suite, t'es mis dedans, en fait. Il n'y a pas de transition. Tout de suite, t'es envoyé dans cet univers qui te balance comme ça, là, tu vois. Et c'est là où vraiment il y a une réelle force dans ce qu'il propose dans sa musique, tu vois, qui la rend réellement mémorable, en fait. C'est vraiment tout ce qu'on dit au début. Et à quel point ça représente vraiment une période musicale, tu vois, quand il était là, il traînait avec les Terror Squad et tout, et qui était capable de proposer ce genre de choses-là, tu vois. Et ouais, c'est là où c'est vraiment intéressant de voir justement son évolution musicale, comment tu peux passer en fait d'un artiste, d'un groupe, de toi-même, et ensuite exploser par toi-même en tant que producteur, tu vois. En fin de compte, des producteurs comme ça qui s'en sortent de cette manière-là, bah, il n'y en a pas tant que ça, tu vois. En tout cas, qui arrivent à être des superstars comme ça et qui arrivent totalement à se détacher de ce qu'ils avaient avant pour revenir. Mais en final, il a toujours gardé un lien avec The Roots parce qu'en fait, il a toujours continué un peu à travailler avec The Roots et à travailler avec des personnes un peu de ce milieu-là, tu vois. Donc, c'est pas comme s'il avait totalement rejeté tout ce qu'il a fait. De toute façon, il a rien rejeté en réalité parce qu'il est toujours resté dans le hip-hop. Mais c'est juste qu'il a réussi à porter son talent vers des choses beaucoup plus qui vont toucher beaucoup plus de monde, tu vois. Et il a super bien fait, hein, d'une manière où en fait tu te gardes dans ta tête, tu vois. Je pense que pour The Neptunes, moi je me dis, on garde ce qu'on pense là, ok. Là, on donne pas de réel avis, et quand on va voir pour The Neptunes, c'est là qu'on va réellement voir ce qu'on en pense. Parce qu'en vrai, de vrai, tu vois, quand on va se remettre les sons de The Neptunes dans la tête, ça, c'est là où ça va être intéressant, tu vois.
Ouais,
parce que C'est vrai que à l'époque, tu vois, tu as des Get It Poppin' et tout de Fat Joe. Là, toute cette période de Fat Joe, il était chaud. Je sais que Scott Storch, il était derrière les trucs, là, les Get It Poppin'. Now what you gonna do? I'm a get it poppin'. I'm a get. Tu te rappelles de cette chanson, hein?
Non, ça me dit.
The morning girl and the DJ play my song. Now what you gonna do? I'm a get it poppin'. Non, tu vois pas? Avec Nelly à l'époque, là. Non, ça, c'était des périodes, putain. Non, j'ai envie de remettre un baggy, là. Voilà, c'est ça qui se passe. Moi, j'ai envie de remettre un baggy tout de suite, là, et de me replonger dans le bail. C'est vraiment un sacré bail. Du coup, toi, au niveau de ses compositions et tout, qu'est-ce que tu penses qui les rend aussi spéciales, en fin de compte? Est-ce que tu penses que c'est vraiment sa touche classique qui, au final, fait que ça lui donnait une certaine science particulière au niveau de ce qu'il fait?
Je vais te redire ce que j'ai dit, hein. Franchement, c'est sa capacité à faire des statements. Vraiment, dans la plupart des trucs dont on a parlé, il y a une information, il y a un truc que tu retiens, tu vois. On prend n'importe laquelle de ces gros hits, de ces gros morceaux, a priori, t'es capable de les chanter. T'es capable de chanter un truc, tu vois, une mélodie. Ah oui, d'où ? Je vais pas te faire l'insulte de te demander si t'es capable de chanter le truc, tu vois. Tu vois, c'est s'il fasse, c'est que des statements, tu vois, des phrases, des idées archi fortes et qui tabassent. Et c'est ça qui fait pour moi sa popularité et surtout une espèce de modernité aussi dans le son. Ce qui est très bizarre, c'est que vas-y, en fait, il va utiliser du matériel un peu rétro parce que c'est lui qui ramène un peu le son 808 aussi. Bon, Atlanta le fait. Le son du sud, c'est ça, effectivement. Mais lui, il arrive à ramener le son de la 808 à un autre endroit, tu vois, que la crunk, que ce son du sud-là, que vous retrouvez, vous retrouvez aussi, tu vois, chez Young Guns. Non, c'est pas Young Guns, Young Bloods, je suis un ouf. Les Young Bloods, tout l'environnement de Lil Jon et les Side Boys, ou alors plus au sud, même du côté de Memphis, du côté du Texas, avec Swisher House, tout ça. Eux-mêmes, ils étaient dans ça. Mais il utilise ça autrement, tu vois. Sur How We Do, c'est exactement ce qu'il utilise. Mais c'est surprenant en fait de voir la manière dont il ce son là il trust, c'est vraiment atroce. De Candy Shop à Lil Beat, c'est trop, c'est trop. Juste laisse nous tranquille, laisse nous respirer, gros. Parce que c'est vraiment, vraiment pour moi 2004-2005, c'est son époque à lui, c'est vraiment lui, c'est Scott Storch. En tout cas, bon, franchement, vas-y. C'est quoi, on peut dire ce qu'on veut, mais moi je pense que je serais définitif sur le fait de dire que 2004-2005, c'est Scott Storch, point. Je pense que je suis définitif là-dessus.
Totalement sa période.
Parce que vraiment, j'ai du mal à envisager qui arrive avec des morceaux et surtout une longévité et des hits comme ça à répéter. On pourrait même aller jusqu'à 2005, tu vois. Si on... Parce que 2005, c'est Lady Rain, tu vois.
Quel morceau, vraiment ce morceau c'était fou quand il était sorti avec les remixes et tout. Non, ça c'était la belle période où tu avais les remixes de chaque morceau et tout, c'était vraiment une folie, tu vois. Franchement, c'est ouf parce que tu te demandes comment un mec qui était aussi haut comme ça en fin de compte peut en arriver à d'un coup tout niquer, tu vois. Tout niqué par lui-même en réalité, tu vois ce que je veux dire, parce qu'il avait ce côté-là où je pense que le fait d'être passé de quelqu'un qui était autant dans l'ombre, passer de la lumière, avoir une telle période de réussite. Bah en fait, c'est quelque chose qui... En fait, il a eu du mal à gérer à ce point-là. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en réalité, du coup, on en arrive à cette période-là. Il est au top et tout. Le mec est tellement au top, en fait, que bah, tout le monde veut faire des choses avec lui. Les Christina et Guerra veulent faire des albums communs avec lui, des trucs comme ça, ce qui est en vrai quasi fait, tu vois. Du coup, les gens, ils vont prendre l'avion pour aller le voir lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il n'a même plus à se déplacer pour aller voir les gens. Il n'a plus à demander. Les gens se déplacent pour aller le voir lui, pour avoir ses prods et tout, tu vois. Et du coup, on arrive à un moment où le mec, il devient fou, en fait. Il pète un plomb. Et malheureusement, et en vrai, là, on en parle parce que c'est important dans son développement musical, tu vois, c'est qu'il tombe totalement dans la coke, tu vois. Dans la drogue, en tout cas. Du coup, à partir de là, bah, il perd totalement tous ses sens, tu vois, dans le sens où il devient beaucoup trop arrogant, il fait pas assez attention. Là, pour te dire, et peut-être les gens ne savent pas, mais on a parlé de tous ces tubes. Tous ces tubes-là, on les connaît tous. On a tous dansé dessus, on les a tous écoutés au moins une fois. Vraiment, peu importe ton âge, tu connais au moins Lean Back. Au moins Lean Back, tu le connais, tu vois. Dans les clubs, tu l'as entendu et tout. Mais il touche pas les droits de ses musiques. Il les touche pas. Parce qu'il s'est fait douiller à plusieurs reprises entre son manager qui vient, qui lui vole son oseille, et aussi le truc sombre, gros. Du coup, il est en train de faire une de ses soirées chez lui et tout. Le mec, il est cocaïné comme jamais, tout ça.
Ah, il était sous schnouf atroce.
Et sous schnouf atroce, mec. Le mec était blanc, plus blanc qu'il est blanc lui-même, tu vois. The snowman, le vrai, l'homme des neiges, tu vois. Et terrifiant. Et du coup, évidemment, dans ces conditions-là, il ne peut pas savoir ce qui se passe. C'est qui vient? Le caïd ultime, le caïd, le plus caïd de l'histoire du rap. Il connaît les bails. Et lui, il est là. C'est plus la grande ère comme ça pouvait l'être à l'époque pour lui, tout ça. Et on parle évidemment de Suge Knight. Suge Knight entend le bail, tu vois. Ah, ok. Du coup, lui, il se rend à la soirée. Je ne sais pas s'il a été invité ou pas, mais en tout cas, il était là. Et qu'est-ce qu'il fait, ce fou? Il va voir Scott Storch et il lui fait signer un contrat. Et Scott Storch, ce dont il ne se rend pas compte, c'est qu'il a signé un contrat pour céder ses droits à Suge Knight.
Ah! Ah, par contre, je ne connaissais pas cette shit.
Gros.
Ce mec-là.
Gros. Gros. Et du coup, à partir de là, tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a réussi à bâtir, ben, en fait, ça part en vrille parce que tout ça, tout ce qui touche là, l'argent et tout, ben, en fait, en réalité, il ne le touche pas. C'est Suge Knight qui le touche. Je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, tu vois. Mais en tout cas, je peux t'assurer que pendant un très bon moment, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il ne touchait rien de tout ça. Tous ces tubes-là qu'il a créés et tout, il ne touchait pas les droits dessus. Donc, oh, t'as ça. À côté de ça, le mec, vu qu'il a acheté tout à des prix n'importe quoi et tout, je crois qu'il valait 70 millions de dollars en 2006. Et le mec, il a tout dépensé dans des voitures, dans la drogue, dans des baraques, dans des trucs comme ça. Et du coup, il s'est retrouvé dans des positions où, en vrai, bam, c'est fini, tu vois. Et moi, je te demande aujourd'hui, tu vois, d'un point de vue du coup musical, est-ce que tu penses que le fait pour lui de plus avoir une telle assise sur la musique à partir de 2006, est-ce que tu penses que ça l'a rendu hors coup? En fait, il n'était plus dans le coup quand il est revenu, entre guillemets. Est-ce que tu penses que ça a autant influencé? Ou bien est-ce que tu penses qu'en fin de compte... Enfin, bref, ton avis là-dessus, quoi.
Le fait qu'il, qu'il soit sur le déclin?
Ouais, exact.
À mon avis, ouais, ça a dû influencer sur son état de santé, son état mental. Et surtout, le pire, c'est que, en fait, il était à un tel état, il était dans un tel état, il avait acquis un tel statut qu'il avait l'impression, tu sais, qu'il pouvait rien lui arriver. Il était too big, too fall, tu vois. Sauf que quand tu te donnes pas les moyens, que tu es un peu en difficulté par rapport à ta musique, bah, tu folles forcément. Mmh. Et en plus de ça, la période de chute de Scott Storch, elle coïncide avec la période d'ascension fulgurante de Timbo, notamment période 2006-2008, là, où c'est que lui. Parce que 2006-2008, par contre, c'est Timbo, tu vois. Il étrangle tout le monde. Avec Loose.
Fallait bien que tu précises que ton gars Timbo.
Bien sûr.
Faut pas oublier que mon gars Timbo, il est là dans la boucle.
Bien sûr. J'ai essayé d'être impartial, mais c'est difficile, tu connais. À partir du moment où Timbo, il avait fait un morceau où il l'appelait Piano Man, tu vois. Dans Give It To Me, déjà, il le fait, mais il a fait un morceau. Il a écrit un morceau qui s'appelle Piano Man, où, effectivement, il le qualifie de Piano Man pendant, les 3 minutes de la track. Et bref, moi, comme j'étais Team Timbo, forcément, moi, Scotty, c'était dur d'admettre qu'il était chaud, tu vois.
T'as dû faire la paix avec toi-même pour te rendre compte, oui.
Ouais, ce que je te dis là, ce qu'on est en train de faire là maintenant dans ce podcast, frère, c'est le fruit d'un processus de méditation, de réflexion, de... Non, il m'a fallu du temps pour que j'accepte à nouveau, tu vois, que je dise la vérité, pour que je dise non, achève quand même, tu vois. Ouais, je pense que ouais, c'est le déclin, tu vois. Il y a d'une part l'ascension fulgurante, l'impression d'être too big, too fall, et l'anxiété, probablement, tu sais, trucs de santé mentale, on n'était pas trop dans ça à l'époque. Et deuxièmement, la chute monumentale, tu vois, et l'ascension de sa némésis Timbo, qui fait que...
Tu penses que Timbo, du coup, le fait que Timbo ait évolué à ce moment-là, ça lui a, lui, encore plus poussé à l'arrière, genre?
Il avait sorti un morceau où il clashait Timbo, tu vois, il avait répondu à Piano Man, et il a perdu, très, très clairement, tu vois. Mais le pire étant que...
Il a des beatmaker comme ça, je suis mort.
Grave, d'autant que le morceau de Timbo, il était même pas fort, tu vois. Le morceau de Timbo, il était même pas fort, mon ref. Mais pourtant, Costache a perdu, tu vois. Donc, pour moi, il y a peut-être un petit peu de ça aussi, tu vois. L'ascension de ta némésie, c'est ton propre déclin. Bon, c'est en difficulté, quoi.
Ouais, je suis d'accord là-dessus. Bah, déjà, je pense, comme tu as dit, tout ça, en fait, l'enchaînement de mauvaises expériences, clairement, il y a quelque chose où ça va pas, tu vois. Et puis, en vrai, ça te fait prendre du retard sur ce qui se passe. Aussi, je pense que le fait que son déclin se joue aussi beaucoup sur... Parce que au bout d'un moment, il y a eu l'évolution d'autres styles de musique dans le rap, tu vois, de sous-genre. Il y a eu la trap qui est arrivée. Déjà, il y a eu Lex Luger qui est arrivé avec quelque chose de très fort. Donc à partir de là, déjà, il fallait suivre. Et en vrai, je pense que de toute façon, c'est le même problème que beaucoup d'artistes des époques des années 2000 et tout, tu vois. C'est qu'à partir d'un moment où tu as une jeunesse qui arrive et qui ravive un peu le truc, bah, ça commence à devenir compliqué pour les autres artistes d'avant de réellement avoir quelque chose. Surtout que les artistes, au bout d'un moment, en fait, avec l'évolution d'Internet, ils ont une idée de ce qu'ils veulent, tu vois. À l'époque, quand c'était géré par les labels et que tout était absolument en construction, tu laissais place à tout, en fait. Il y a un tube qui marche, il y a un tube qui marche pas, ok. Il n'y avait pas des vues YouTube pour te dire si ça, c'était un banger ou pas, en fait. C'était vraiment au niveau des ventes. Donc, en fait, ça laissait peut-être une plus grande amplitude pour des mélomanes comme lui d'évoluer et d'exercer et d'exister, tu vois. Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui où les gens veulent savent ce qu'ils veulent. Je veux de la drill. Je veux de la trappe. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, tu vois. Et lui, c'est pas quelque chose où... Je trouve pas que c'est quelque chose que tu peux réellement définir. Tu peux pas vraiment définir dans quoi il évolue, tu vois ce que je veux dire. Donc, je pense que c'est pour ça que, par exemple, même pour quelque chose d'assez nostalgique, bah, tu vas pas forcément l'appeler parce qu'il n'y a pas un sound en particulier qu'il représente, tu vois. Et je pense que c'est des choses, pour moi, qui font que Scott Storch aussi n'a pas jamais vraiment réussi à rebondir. Tu vois ce que je veux dire? Il a fait des trucs ici et là. Et en réalité, mine de rien, il a quand même travaillé avec des artistes et tout, tu vois. Genre, il a bossé avec Ariana Grande. Il a coproduit Tyler Hero de Jack Harlow quand même, tu vois. Donc, gros tube, tout ça. Et il a bossé avec Snitch 9. Ouais, faut mettre les choses dans leur contexte. il a quand même essayé de se rallier à des personnes ici et là parce que ces personnes-là connaissent qui il est, tu vois. Mais même là, il n'y a pas une sonorité particulière qui va apporter aux gens. Soit la prod, elle est bonne, soit elle ne l'est pas, tu vois. Parce qu'encore à l'époque, on peut dire qu'il y avait des sonorités peut-être arabiques qu'il a apportées dans ses musiques orientales, tu vois. Mais ce n'est pas quelque chose que lui, il avait fondamentalement créé. C'est juste quelque chose qu'il maîtrisait à la mort, en fait. Genre, c'est les siennes, ça fait partie des plus mémorables de l'histoire de tous les temps, en fait, dans ce qu'il a fait, tu vois. Et du coup, je pense qu'il est peut-être là un peu le souci. Du coup, il est là, il vit toujours, tu vois, il vit toujours de son art, il travaille toujours, il produit, il fait des trucs avec un tel. Mais aujourd'hui, dans une période où les gens, s'ils travaillent avec toi et que tu remontes, ils ont besoin d'une identité forte, comme des gens comme Pharrell, ben, ils vont pas forcément penser à Scott Storch, tu vois ce que je veux dire. Et c'est là où c'est dommage. C'est que pour moi, déjà dans cette période-là où il a été en déclin, il s'est tiré une balle dans le pied parce que du coup, il était infréquentable. Pour une artiste de pop, c'est inconcevable de travailler avec quelqu'un qui s'est tué à la coke. Tu vois. Et c'était là, en fait, où je trouve que peut-être aujourd'hui, il aurait vraiment pu tirer son épingle du jeu. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Par rapport à quoi?
Du côté de la poque, du fait que si aujourd'hui il était vraiment, vraiment là, par rapport à l'époque, il aurait pu s'évoluer dans la pop. Et en réalité, par exemple, il l'a fait. Enfin, justement, on parlait d'Ariana Grande et même un peu, comment il s'appelle? Le duo...
Chloé et Ellie.
Exactement, tu vois.
Ouais, il a fait Do It.
Exactement, tu vois.
Il a produit Do It, et Do It, c'est bien.
Ouais, Do It, c'est exactement avec l'intentionnant que t'as dit. Do It, c'est bien.
C'est
exactement
bien.
Ça. C'est exactement ça, tu vois. Ouais, je pense que moi, dans la pop, s'il n'avait pas autant déconné à l'époque, il aurait continué à évoluer de ce côté-là. Et si ça se trouve, il aurait été un Max Martin aujourd'hui. Hein. Moi, je suis hâte.
D'autant que on l'a pas forcément mentionné parce que, vas-y, on était obnubilé par ses bangers Peura et R&B. Mais il a quand même fait un projet quasiment intégralement produit pour Paris Hilton et Brooke Hogan, gros.
Mais ça, je savais même pas. Tu me dis ça, on dirait genre... I didn't know that shit. Donc... Waouh!
Ah, gars!
Waouh, j'imagine pas, ça devait être une horreur, putain. Il a dû être bien payé, par contre.
Ouais, je pense bien. Je pense qu'il était pas à plaindre.
Oui, il a été grassement. Il a reçu une bonne grâce, là, sur les mains, là. C'est... Vas-y, Paris Hilton, tu sais bien, elle est riche, elle va lui mettre bien. Vas-y, prends ton billet, fais-moi cet album, tu vois. Surtout que, justement, elle, pour le coup, elle a pensé à aller Christina Aguilera et tout, quand elle a fait son projet, certainement. Et me dire, bah non, j'avais pas, mais du coup, tu voulais en arriver quelque part avec cette histoire de Paris Hilton.
Non, ouais. Paris Hilton et Brooke Hogan, bah, ça laisse entendre qu'en réalité, il n'était pas contre le fait de faire de la pop, tu vois. Il avait déjà un pied dans la pop, donc il avait peut-être son épingle à jouer dans ce domaine-là. Après, tu connais la schnouf et tout, machin, les difficultés qui font que...
Ouais, c'est exactement ça, tu vois, au niveau de ça, là, il s'est bloqué lui-même, et bon. C'est comme ça, tu vois, ça change rien au fait qu'aujourd'hui, tu peux pas nier la personne qu'il a été musicalement, ce qu'il a apporté musicalement, et parce qu'en vérité, quand tu vois à quel point il est derrière des morceaux aussi forts que Cry Me a River et tout, qui sont des morceaux qui représentent toujours quelque chose aujourd'hui, c'est ahurissant, tu vois. Et c'est ouf de se dire qu'une personne a été capable d'offrir autant de morceaux qui ont autant marqué la culture, mais jusqu'à aujourd'hui, tu vois. On parle de morceaux quand même qui ont des 20 ans. Et d'ailleurs, c'est fou, parce que là, J'y pense au précédent épisode, par exemple. On parlait beaucoup de Oboy, mais Oboy, il a fêté ses 20 ans, gros. Et on est en train de parler de morceaux qui ont fêté leurs 20 ans. Est-ce que tu imagines un chant comme Cry Me a River? Je ne sais pas en quelle année exactement il est sorti, mais il est autour des 20 ans. 20 ans au moins.
Ouais.
C'est ouf, hein? C'est ouf. Ah ouais. Et le morceau, il est toujours là. Les gens, ils le chantent toujours, peu importe l'âge et tout. Et c'est là que tu te dis qu'il a été capable quand même d'un génie exceptionnel qu'on ne pourra jamais, jamais, jamais lui retirer, jamais lui renier, tu vois. Donc, c'est dommage que du coup, lui, on n'a pas... Il fait certainement des moves. Mais contrairement à d'autres personnes, tout s'est concentré dans la musique réellement, tu vois. Et de toute façon, aujourd'hui, il est riche, ça se voit, ça se sent, tu vois. Mais il aurait pu plus gratter. Et c'est là où c'est l'importance aussi de garder sa carrière in check, en fait. D'être capable d'évoluer et que même quand tu fais des conneries, d'être capable de contrôler les conneries que tu fais parce que même quand tu es super haut, tu peux tomber. Très peu de personnes arrivent à se relever après être tombées plusieurs fois, tu vois. Sauf Kanye West. C'est... voilà.
Non, mais lui, c'est autre chose.
Sauf Kanye West.
C'est vraiment autre chose.
C'est vraiment... Bah, lui, c'est pas possible. Lui, c'est vraiment le phénix. Le phénix en lui-même. C'est le phénix incarné, ce mec. Peu importe ce qui se passe, il revient toujours. Mais à part si tu t'appelles Kanye West, gros... Et encore, on sait jamais, mais à part si tu t'appelles Kanye West, gros... Keep your career in check, parce que vraiment, peu importe à quel point t'es haut, gros, tu peux retomber fort. Et ça, c'est, je pense, la chose qu'on peut apprendre de tout ça. Mais malgré tout, et plus que tout, se rendre compte de la personne qu'il a été musicalement parlant et d'être capable de reconnaître que c'est tout simplement une légende. Legendary. Je sais pas si t'as quelque chose d'autre à ajouter.
Non, pour moi, on a fait le tour du sujet. Hein.
Bah, je suis bien d'accord. Du coup, comme d'hab, c'est le moment qu'on attend tous, des morceaux qui t'ont marqué de cet homme.
Alors, les morceaux qui m'ont marqué, quels morceaux je peux mentionner? Forcément, Me, Myself and I, Proceed. J'allais chercher un petit peu dans cette époque-là. Il y a un morceau du groupe qui l'a produit, c'est vraiment un truc un peu low-key, tu vois. Donc j'ai cité Proceed. Bon bref, ça va me revenir. On peut citer Let Me Blow Your Mind, X. Parce que bon, ça aussi, c'est vraiment un hymne de l'époque.
Sûr.
Ouais, tous ces trucs-là. Hein. Et Do It, en vrai, Do It, j'aime bien. J'avais vraiment kiffé.
J'ai bien compris, t'aimes bien. C'est bien. Ouais. C'est bien. C'est bien, Do It. C'est bien. Ouais, bah écoute, comme on n'est pas d'accord, en vrai, on est sur les mêmes sphères. Hein. Du coup, Make It Rain, évidemment, pour moi, de mon côté, c'est vraiment une dinguerie. C'est vraiment le... Enfin, c'est toute cette période-là, en fait, nostalgique, mixtape Dat Pif et tout. Du coup, je peux avoir que de l'amour pour ce truc. Il y a un son de l'album de Lil Wayne, d'ailleurs, et Birdman, Like Father Like Son, que je kiffe de ouf. C'est You Ain't Know. You Ain't Know. Je sais pas si tu vois... Enfin, t'as écouté l'album de Like Father Like Son avec Standing Like My Daddy et tout dedans?
Non, du tout. C'est un des rares trucs que j'ai pas écouté de tout ce giron-là.
Gros, ça c'était, du coup, ça c'était vraiment un fou, un truc à l'époque vraiment. Je me rappelle quand ce projet est sorti, c'était vraiment une folie. Et du coup, il y a You and Know dans ce projet qui était vraiment fou, tu vois. Et du coup, ce son-là, obligé de le porter dans mon cœur. Bon, évidemment, Cry Me a River, comment ne pas le mentionner, ce morceau, en réalité, ça m'a toujours pas saoulé, alors que ça fait des années que le morceau il existe. Mais on est toujours sur cette chose explosive, comme j'avais dit. Ça, c'était vraiment la folie. You Got Me, évidemment. Just a Little Bit, évidemment. Petit Amour pour Get It Poppin', comme j'ai dit. Ce son-là, ça... En fait, je sais pas, je trouve, d'une certaine manière, hyper niais, mais hyper stylé en même temps, tu vois. Genre, ça là, c'est vraiment la nostalgie. Tu vois ce que je veux dire? Avec la prod et tout, ça fait des... Vraiment quelque chose de très mémorable quand tu l'écoutes en réalité. Tu vois, ce truc qui n'a jamais quitté ma tête. C'est ouf. Donc, ouais, mais ma Myself and I, vraiment. Ce son-là, c'est trop, c'est des émotions, comme tu as dit. C'est vraiment un truc que tu le ressens dans ton cœur. Et voilà, quoi. Donc, je pense que avec tout ça, je suis plutôt pas mal.
Ouais, voilà. C'est une bonne sélection.
Ouais, mec. De toute façon, tu peux pas. You can't get no wrong avec. Avec lui, de toute façon, je ne veux pas dire qu'on a tout aimé, j'imagine, tu vois, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les hits qu'il a fait, ils étaient marquants, il a vraiment eu des productions mémorables, certaines des plus mémorables de l'histoire, tu vois. Donc voilà. Et je crois même qu'il a des productions de crédit dans Forgot About Dre, hein. Je crois qu'il a des productions de crédit.
Je crois, hein.
Ouais. Donc sinon, je mettrais aussi Forgot About Dre, parce que
bien sûr.
Jusqu'à maintenant, pour moi, c'est le meilleur passage d'Eminem qu'il ait jamais fait de son histoire de rappeur. Hein. C'est vraiment trop pour moi.
Eminem pour moi, sous Dre, Eminem quand il travaille pour Dre, Eminem pour Dre, c'est fort de fou. Quand il travaille avec Dre. Quand il travaille pour Dre, c'est trop, ouais, c'est trop. À l'époque de la petite Smoke Tour là, t'es un jeu. Faut se rappeler, faut se souvenir. Parce que vas-y, là, c'est un peu Grandpa Yells at Cloud.
Exactement. Mais en vrai, en plus, c'est cool, parce que c'est même pas. C'est même pas vrai en plus, parce que c'est même pas Grandparent Confided Yell at Cloud, parce qu'en plus il est dans son coin le pauvre. C'est juste que quand tu l'entends rapper, nanana, pourquoi il est fâché, tu vois? Il est tout le temps fâché. Tu vois, au bout d'un moment, c'est relou, tu vois ce que je veux dire? C'est surtout ça. Mais it's cool though, tu vois, mais ouais, c'est dur que maintenant quand tu le vois dans un featuring, en tout cas moi je souffre.
Ouais.
Quand je vois il est dans un featuring, moi je souffre, tu vois. Moi, il essaie toujours d'apporter des beat switch dans les chansons et tout, je comprends pas pourquoi. Fait un truc avec Griselda, et Griselda ils sont là et tout, même 50 Cent qui fait son passage, il assure de ouf, alors que le 50 Cent d'aujourd'hui, c'est pas un gros kicker. Mais lui, il arrive, il faut qu'il change la prod pour que ça devienne un truc un peu électro avec Griselda, mon gars. Pourquoi ? Le son qu'il a fait avec Nas, mon gars. Le mec, il fait un son avec Nas. Tu peux même avec Nas, tu veux pas juste... Calm down, genre, calme-toi, gros. Il n'y a pas de train à prendre, en fait. Genre, le mec, on dirait qu'il a un train à prendre dans 2 minutes.
Ouais.
Damn.
T'as plus rien à prouver, beau fils.
Mais non, c'est ça, en fait. C'est bon, tu peux te calmer. Laisse-nous kiffer tes skills. T'as pas besoin d'aller vite à chaque fois.
Voilà, Justin. Stan, gros.
En plus, sur ça, est capable.
C'est ça que je trouve que Jay-Z, elle a beaucoup mieux vieilli là-dessus. Mais bon, on aura peut-être l'occasion d'en parler. On a déjà passé No ID parce que j'aurais pu en parler si on parlait de 444. Mais bon.
C'est trop tard. Mais bon, you heard it here à la fin. Donc, ouais, voilà. Bah, je pense qu'on est plutôt bon. Je vais juste dire keep it gangsta, dog, keep it gangsta. Parce qu'en vrai, j'ai juste envie de reparler vite fait de ce petit passage de Up in Smoke Tour.
Avec Dubsy qui fait son. Qui font sur le côté comme ça.
Mais bon, combien de fois j'ai remis cette partie? Combien de fois? Je ne sais pas. Mec, c'est une folie. Keep it gangsta, dog. Tu vois, j'ai jamais eu autant. Gros, comment veux-tu qu'après, je me dise, bon, j'avoue, la G-Funk, c'est la West Coast et tout, c'est un peu stylé. En vrai. Comment tu veux que je me dise pas ça après ça, tu vois? Quand j'ai vu ce passage-là, là, c'était trop.
ça nous a tous traumatisés. En plus, il fait toute la scène comme ça. La scène, elle était balèze.
C'est vraiment l'un des meilleurs T-Walk de l'histoire. Gros.
Ouais, ce qu'il a fait Dubsy. Ce qu'il a fait Dubsy là-dessus. Dubsy, vraiment, il a fait un cultural reset. C'est là que j'ai commencé. Mmh. Après, j'avais un poteau qui était à fond dans la West, tu vois, et qui m'a mis dedans aussi, qui m'a appris les bails de 213, West Side Connection, tout ça, Mac 10. Ça, il m'a vraiment mis dedans. Badaz, à qui je dois admettre que je ressemble beaucoup, en vrai. Pour ceux qui m'ont déjà vu. Oui, je ressemble beaucoup à Badaz. Bref, mais Scott Storch, ça fait partie de tout ça, quoi. Ça compte.
Exactement, faut pas l'oublier. Du coup, il fait totalement partie de ce que j'ai reset là, tu vois. Donc voilà. Bah écoutez, comme d'hab au niveau des playlists, dès qu'on fait un artiste, il y a forcément une playlist qui l'accompagne. Donc du coup, vous aurez la playlist de nos morceaux favoris, du moins, de Scott Storch, même pour les sons qu'on aurait pu oublier dans l'eau et tout, parce qu'il y en a forcément, il y en a toujours. Voilà quoi. Comme on avait fait la saison précédente, l'épisode précédent pour Benny Siegel. Shout out à Benny Siegel, parce qu'en vrai. On s'est rendu compte qu'on n'a pas assez parlé de Benny Siegel.
S'il faut, on fera un épisode spécial sur
Benny Siegel. Juste pour Benny Siegel, parce que chez Rock Café, là, dans tout ce qui s'est passé et tout, avec El Flerito, Just Blaze, qui a été vraiment instrumental dans l'évolution de Rock Café, là, il fallait forcément qu'on parle de Benny Siegel. Et on ne l'a pas fait comme ça devait. Donc, mais respect à lui, tu vois, logiquement. Ouais, du coup, voilà. Enfin, bref.
Vous l'ignorez peut-être, mais on aurait pu passer une demi-heure à parler de Feel It In The Air. Sachez-le.
Exact. Exactement, même si je pense c'est pas Just Blaze qui l'a produit, mais en vrai.
Non, c'est pas Just Blaze, mais.
Exact.
Pour parler de Vinny.
Exactement. Je suis bien d'accord. Du coup, voilà. Bah, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous avoir écoutés. Tout ça, vous connaissez nos réseaux. N'hésitez pas à nous suivre. N'hésitez pas à partager le podcast si vous kiffez tout ça. Et puis, voilà. Merci beaucoup, la team. Et on se dit à plus. Ciao.